tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, on sera en compagnie de Pixel.
Ouais, balance ton Game Info, hashtag.
De Morren.
Salut tout le monde.
Et d'ATH.
Salut, salut.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de Yoku's Island Express, on évoquera Hollow Knight, Fireland, Last Epoch, Issuite. Nous parlerons de la ruée vers l'or, des anciennes consoles qui reviennent d'entre les morts. On évoquera la news nanarde de Pixel. Nous parlerons des vieilles gloires chez des super players qui sont en difficulté suite à des révélations de triche. Et enfin, on terminera sur la promotion des jeux sur Twitch. Il y a eu quelques articles qui sont sortis cette semaine suite à la sortie d'un studio que Morren connaît bien. Et il nous en parlera tout à l'heure. Allez, Morren, d'ailleurs, puisque ouais. Je t'ai sous la main, on va commencer avec toi. On va parler de Yoku's Island Express, qu'on avait déjà évoqué ici.
Ouais, alors Yoku's Island Express, qu'est-ce que c'est? Juste pour rappeler à ceux qui ne l'auraient pas entendu, le podcast dans lequel on en a parlé, c'est un jeu en 3D, scrolling vertical, horizontal, de plateforme, où on incarne un petit bousier, donc une espèce de scarabée qui pousse une boule, et tout ça en fait c'est fait avec des mécaniques de pinball.
Ouais, donc mi-plateforme, mi-flipper, et ça c'est bien.
Exactement, et c'est vrai que les développeurs qui sont suédois, quand ils nous disent que ça n'a jamais été fait dans les jeux vidéo avant eux, on a tendance à les croire. et ça y est, on a une date de sortie pour le jeu, ça sortira sur Switch, sur PC, sur PlayStation 4 et sur Xbox One, donc à peu près partout, le 29 mai, donc c'est pour bientôt.
Et que je prendrai parce que il a l'air tellement bien ce jeu, enfin c'est rafraîchissant. Voilà.
Ah oui, mais c'est charmant visuellement en plus. Hein.
Tout à fait. Bon, toujours la parole, Morren.
Oui.
Est-ce que je vous ai déjà parlé du jeu de l'année 2017? Le jeu de l'année 2017, il s'appelle Hollow Knight. C'est un jeu qui est très bien. Si vous ne l'avez pas fait et que vous aimez les Metroidvania, achetez-le parce que c'est le jeu de l'année 2017. Peut-être avec Persona entre les deux. Mon cœur balance, voilà. C'est un jeu qui défonce un Metroidvania avec une ambiance à la Dark Souls, on va dire. Donc, allez-y, achetez-le, c'est très bien. Et il faut d'autant plus l'acheter que le studio a une attitude, je trouve, ma foi... chapeau bas.
Oui, parce qu'en fait, comment vous dire que la mise à jour Lifeblood est déjà disponible et elle est gratuite. Alors on va faire un petit peu le point sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a un nouveau boss. Il y a aussi un boss déjà existant en fait qui a été retapé. Donc le combat est devenu plus difficile. Il y a aussi des optimisations techniques un petit peu partout, plus la possibilité de poser un marqueur sur la carte, ce qui n'était pas possible avant.
Alors, précision, on pouvait poser des marqueurs sur la carte avant. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté plus d'icônes, en fait, pour que les joueurs se repèrent mieux. Parce que c'est vrai que, je rappelle, Hollow Knight, c'est un jeu où, par défaut, t'as pas de carte, il faut trouver le personnage qui vend la carte, etc. Et une fois que t'as la carte, tu poses toi-même tes marqueurs pour savoir où sont les emplacements, etc. Il y a un côté, tu vois, un peu comme dans Zelda Breath of the Wild, où tu gères ta progression, quoi, si tu veux. Et donc, c'est important, je trouve, aussi, qu'ils rajoutent des options en plus pour permettre d'identifier certains endroits, etc.
D'accord. Ok, et puis dernière chose, pour les nippophiles, on va dire, vous pouvez jouer avec le jeu en japonais, si vous voulez. Voilà, dernière info quand même, il y a une nouvelle extension gratuite qui est prévue qui s'appellera Gods and Glory, et puis le studio travaille également sur l'adaptation du jeu sur Switch pour cette année. Voilà.
Gods and Glory qui, je précise, rajoutera un tout nouveau personnage jouable. Enfin, le personnage n'est pas nouveau en lui-même, mais il sera jouable. Voilà, avec plein de boss, etc. Donc, du contenu en veux-tu, en voilà. Ça, plus la première extension qui s'appelait Grim Troop, que j'ai pas encore faite, parce qu'en fait, j'attends que l'autre sorte pour les enchaîner d'affilée, vous voyez. En tout cas, on a un petit studio, là, qui avait pas récolté grand-chose pour son Kickstarter. C'était une centaine de milliers d'euros, je crois. Qui a fait un super jeu, qui continue à l'entretenir gratuitement, et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui, parce que c'est suffisamment rare pour être noté, et surtout sur un jeu qui est aussi exceptionnel que ça. Encore une fois, jeu de 2017, jouez-y, c'est très bien.
Mais moi je trouve ça scandaleux quand même, hein, parce que c'est quoi ces développeurs et ces éditeurs qui proposent du contenu gratuitement, quoi? Mais vendez-les, ça s'achète.
Et puis il n'y a pas de lootbox en plus dedans, c'est un peu, je trouve ça un peu archaïque comme système.
Voilà, ouais, franchement, c'est saut 1990. Bon, allez, On va maintenant partir dans la séquence Le Tyran. Vous verrez, après, il y aura une séquence pixel. je vais commencer par Fireland. Alors, c'est un autre Metroidvania. Un Metroidvania qui, ma foi, a l'air tout à fait classique. Hein. C'est pas un jeu qui va réinventer la roue dans le genre, en tout cas. C'est un jeu qui demande 23 553 euros sur Kickstarter. Ils en sont à plus de la moitié. Il en reste 26 jours. Bon, je pense qu'ils sont bien partis, surtout que c'est un jeu qui, ma foi, a pour principale qualité, dirons-nous, d'être séduisant visuellement. Voilà, mmh. Bon, c'est du pixel art, hein, mais c'est du bon pixel art comme on les aime, avec des animations assez détaillées. Voilà. Apparemment, ils vont finir par filer un prototype, mais actuellement, en fait, comment dire, c'est un prototype qui ne sera disponible que pour les gens qui ont backé, et j'ai l'impression qu'il ne sera dispo que vers la fin de la campagne ou une fois que celle-ci sera terminée, parce que, je précise, j'ai backé ce jeu, hein, voilà. D'ailleurs, comme d'habitude, faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est-à-dire ne backez pas ce jeu. Pour le moment, moi, c'est le truc qui me pose problème, déjà. Pas de prototype jouable, surtout quand tu vois le jeu dont on va parler après, qui est, lui, un prototype jouable. C'est toujours dommage, je trouve. Autre reproche, comme je l'ai dit, c'est pas original pour un sou. Le seul truc, vraiment, qui m'a donné envie, en fait, c'est que apparemment les développeurs ont l'air de vouloir bosser pour proposer pas mal de costumes, etc., où ton armure évolue, t'as une évolution visuelle, etc. Là, ils veulent pas mal insister là-dessus, j'ai l'impression, et ça, j'apprécie toujours. Il y a un gros clin d'œil à Zelda dans le look du héros principal. Enfin, pour moi, c'est un énorme clin d'œil à Zelda 2, hein, je le dis tout de suite. Moi, quand j'ai vu ce jeu, j'ai tout de suite pensé à Zelda 2 sur NES. Le seul truc qui me fait peur, pour le moment, c'est... comment dire ? Il a l'air un peu mou du cul quand même. Hein. Les oui, animations sont très longues, ça manque un peu de pêche quoi en fait.
Ouais.
Donc
bon,
j'attends
du coup,
voir.
Ça a le défaut de sa qualité, c'est-à-dire que c'est très lisible en termes d'action, en termes de personnages à l'écran. Mais effectivement, du coup, quand tu le regardes dans son trailer, tu te dis c'est quand même très très lent. Et du coup, quand on parle de Metroidvania justement, c'est pas exactement l'idée qu'on se fait du genre.
Bah ça dépend parce que si on prend en tant que tel la série Castlevania. Depuis Symphony of the Night, c'est quand même des jeux assez lents. Hein. Après, c'est vrai que Metroid, c'est des jeux un peu plus péchus, un peu plus nerveux. Mais dans les Castlevania, moi, je trouvais que quand même, à l'époque, il y avait une certaine lourdeur, etc.
Les gens l'ont oublié, mais c'est vrai que à l'époque, Alucard, il était mou du cul. Hein.
Ouais, sauf dans la version Saturn où il avait, on pouvait l'équiper de bottes et qui permettait déjà d'aller un peu plus vite. Mais c'est d'autres jeux qui sont arrivés plus tard quand il y a eu l'émergence des jeux indépendants qui ont dit le Metroidvania, c'est cool, mais nous, on va essayer de ramener un peu plus de dynamisme là-dessus. Et donc moi, ça me dérange un petit peu, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir un jeu comme ça avec une lenteur pareille, mais bon, je me dis que peut-être que le héros n'a pas des capacités surhumaines non plus, tu vois, c'est un mec lambda avec une épée, un bouclier qui va se fighter, donc c'est quand même assez logique d'un point de vue, on va dire, gameplay et lore du jeu, quoi.
Et puis, je rajoute aussi que ce jeu étant un Metroidvania, rien ne dit qu'on n'aura pas une amélioration plus tard qui fera que le jeu sera beaucoup plus péchu. Hein. Ça peut être une évolution intéressante dans le gameplay. Tu vois, t'as un gameplay un peu lent au début, et puis tu vois l'évolution du héros qui à la fin est super speed et tout. On sait jamais. Donc, en tout cas, un jeu que je surveillerai, je pense qu'ils seront financés, y a pas de souci. Ah oui, dernier problème. J'ai remarqué que il y a à peu près 8 personnes sur le projet. Le projet ayant été lancé à Miami, et vu la somme demandée, 25 000 balles pour quelqu'un qui vit à Miami, très clairement, ça, c'est le truc pour survivre jusqu'à ce qu'on lance un accès anticipé. Bon, d'ailleurs, ils se cachent pas qu'ils veulent lancer un accès anticipé, mais tout ça pour dire que quand même, à mon avis, c'est un projet qui est assez risqué, parce que de ce qu'ils disent pour le moment, ils ont qu'un proto de disponible, un Vertical Slice. Donc ça veut dire que ils vont vivre en flux tendu jusqu'à l'accès anticipé, et ensuite, il va falloir prier pour que l'accès anticipé marche, quoi. Bon, je vais garder la parole, n'est-ce pas ? Et on va maintenant parler d'un hack and slash qui s'appelle Last Epoch. Alors, Epoch, Chrono Trigger, ça vous dit quelque chose, hein ? Vous voyez le vaisseau qui permettait de voyager dans le temps, etc. Alors, je sais pas si c'est volontaire ou pas, parce que Epoch, après tout, c'est un terme... enfin, tu me corrigeras, moi, il me semble, mais qui est assez courant, hein ?
Oui, ça arrive d'être assez utilisé. Bon, pas dans le langage courant, hein, mais dans des univers un peu... disons médiévaux, c'est assez courant de l'utiliser, ouais.
Bon, en tout cas, disons que je subodore que c'est un hack and slash qui fait un clin d'œil à Chrono Trigger. Pourquoi ? Parce que c'est un hack and slash, en fait, où vous allez voyager à travers le temps. C'est vraiment la feature originale de ce projet. C'est-à-dire que vous allez jouer à la fin des temps. C'est l'apocalypse, c'est la merde. Vous vivez dans une cité souterraine qui est le dernier bastion de l'humanité, etc. Et en fait, vous allez voyager à travers le temps pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là, n'est-ce pas ? Sachant que vos actions à travers le temps, apparemment, vous donneront accès à des nouvelles zones. Il faut savoir que chaque zone existe dans toutes les époques, et à chaque fois, il y aura un look différent, un level design un peu différent, etc. L'idée étant, voilà, tout simplement, de profiter de ce système-là pour proposer un peu de variété dans la progression d'un hack and slash, c'est-à-dire que certains loots, par exemple, ne seront disponibles qu'à telle époque, dans tel embranchement de l'histoire, etc. Voilà. Donc, seul reproche que j'ai à l'égard du jeu, c'est que je trouve la direction artistique vraiment fadasse, quoi. Bon, techniquement, c'est pas ouf, mais encore une fois, je rappelle, c'est un jeu qui est en alpha actuellement. Donc, je trouve normal qu'il ne s'attarde pas pour le moment sur ce genre de choses. C'est pas vraiment important, voilà. Il demande 170 000 euros sur Kickstarter. Ils en sont à 40 000. Il leur reste 25 jours. Ça sera peut-être un peu plus serré cette fois, mais écoute, ils sont quand même plutôt bien partis pour le moment. Donc, ma foi, moi, un projet que je surveillerai. Seul point, par contre, qui vraiment, moi, me dérange pour le moment, c'est le modèle économique. À savoir que ils ont fait un système où vous pourrez télécharger le jeu gratuitement. Les 20 premiers niveaux seront gratuits. Vous devrez passer à la caisse. Bon, jusque-là, pourquoi pas. Et ensuite, tu as des microtransactions cosmétiques. Et c'est là où ça commence à me poser problème, si vous voulez, parce que je suis jamais fan des jeux qui ont le cul entre deux chaises et qui savent pas choisir entre free-to-play et modèle payant, en fait. Donc, moi, c'est pas trop ma cam, mais c'est ce qui fait pour le moment que je me tâte pour le prendre. Il va pas sortir tout de suite, hein. Sortie prévue pour 2020, sachant que les délais ne sont jamais respectés, comme d'habitude. voilà. J'attends d'avoir des précisions sur le modèle économique, parce que ils disent, oui, que des achats cosmétiques, mais des achats cosmétiques, ça peut être des lootbox aussi, hein. Voilà. ATH, je te donne la parole.
Oui, je voulais te demander, par rapport à ça, vu que le jeu est gratuit, rien ne t'empêche d'y jouer et de voir si ça fonctionne correctement.
Ah non, mais attends, je précise ATH, je pense pas que ça va impacter négativement le gameplay, parce que ils disent bien que ce ne sera que du cosmétique. Donc si ce n'est que du cosmétique, tu vois, ça ne pose pas de soucis. Mais si ce n'est vraiment que du cosmétique, pas avec des lootbox. S'ils mettent pas une machine à sous dans le jeu, ça me va. Mais le problème, c'est que ils restent très vagues sur la notion de cosmétique, en fait. Donc j'attends qu'il y ait des précisions là-dessus. Je sais pas si je suis clair.
Si, t'es très clair, mais moi, je vois pas, en fait, en quoi ça dérange, tant que c'est que cosmétique et que t'es pas obligé de passer à la caisse pour pouvoir profiter du jeu.
En fait, le système de la lootbox, c'est de l'aléatoire. Du coup, si c'est purement du cosmétique, pourquoi tu te fais pas juste un store avec les trucs que tu peux acheter et tu sais exactement ce que tu vas acheter? Là, t'as quand même le système de l'aléatoire qui est clairement scandaleux sur ce genre de truc-là, même si c'est cosmétique, en fait. Si les gens veulent un truc spécifique, ils doivent pas avoir besoin d'acheter 10, 100 lootbox pour avoir le truc qu'ils veulent, quoi.
Oui, mais après, moi, ça m'aurait plus dérangé que ça soit en termes de gameplay, que ça soit des armes, des armures, qui soient vraiment utiles pour ta progression dans le jeu. Mais, enfin, si c'est que cosmétique, après, si toi, t'as envie de jouer à la machine à sous, bah, ça regarde que toi, tu vois ce que je veux dire? Là, il te force pas, en fait.
En même temps, ATH, tu devrais le savoir, on l'a dit plein de fois ici. Moi, j'ai dit plein de fois dans ce podcast que j'étais contre les lootbox, qu'elles soient cosmétiques ou pas, je m'en fous. Parce que c'est un modèle économique qui joue sur la faiblesse des gens, c'est tout. T'auras beau dire, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Je suis d'accord, hein. Mais il y a des gens qui sont addicts au jeu. Et j'ai pas envie de soutenir financièrement un jeu qui, compte sur cette addiction pour remplir ses caisses. C'est tout. C'est juste ça, en fait. Tu vois.
Bah, dans ce cas-là, que le jeu soit cool ou pas, enfin, tu vois, moi, c'est ça qui me dérange, c'est que, c'est-à-dire que si un jeu est super bien, que tout le monde en dit du bien et tout ça, et que toi, t'as envie d'y jouer, bah, juste parce qu'il y a des lootbox, tu n'y joueras pas.
Bah oui, bah, la preuve, hein, j'ai pas joué à Diablo 3 parce qu'il y avait connexion obligatoire en ligne et que j'en voulais pas, hein. Et pourtant, le jeu, demande à Mandren, j'étais chaud pour y jouer, hein.
Okay, mais...
Non, mais tu vois, c'est, moi, c'est comme ça que je conçois le truc, toi. Comme dit mamie, j'ai toujours dit, on vote avec son portefeuille. Je vote avec mon portefeuille, c'est tout. Et surtout que c'est pas comme si j'aurais des frustrations par rapport à ça, hein. Parce que j'ai tellement de jeux que j'ai envie de faire que franchement, pas jouer à ce jeu pour des raisons éthiques, ça me pose aucun souci, quoi. À choisir entre un jeu cool, tu vois, qui a un modèle économique que je trouve sain, et un jeu cool qui a un modèle économique que je trouve pas sain, bah je prendrais le jeu cool qui a un modèle économique que je trouve sain. Voilà, c'est tout. Et encore une fois, on débat sur un truc, mais ça se trouve, il y aura pas de loot box dedans. Hein. Moi, je demande juste des éclaircissements là-dessus, c'est tout. Voilà.
Mais c'est pas grave, au moins ça a permis d'ouvrir le débat sur les loot box et autres cosmétiques.
Bah, tu vois, c'est tant mieux parce que je pensais que avoir été clair là-dessus à plusieurs reprises dans le podcast, mais visiblement non. Donc.
Non, mais en fait, moi, je comprenais totalement dans un jeu comme par exemple un Star Wars, parce que c'est un jeu que tu payes déjà à la base, et que après, qu'il y a des loot box, etc. Bah si un jeu propose quelque chose de gratuit, il faut quand même qu'ils arrivent à trouver de l'argent derrière.
Je vais préciser une chose à TH. Aussi, pourquoi ce genre de pratique me scandalise même sur les jeux gratuits? Parce qu'il y a des jeux gratuits qui sont parfaitement réglo là-dessus. C'est-à-dire, tu prends Path of Exile, comment il s'appelle ce TPS à la troisième personne, là, hyper futuriste, Warframe. Alors, il y a du contenu cosmétique, hein, mais c'est un contenu cosmétique que tu achètes directement, et c'est des jeux qui se font masse d'argent, en fait, déjà. Ce qui veut dire, en fait, que tu vois, tu peux avoir un modèle économique réglo avec les joueurs, en étant gratuit, sans essayer d'enculer un certain groupe de joueurs qui est addict au jeu d'argent, en fait. Tu vois, c'est ça qui est... En fait, pour moi, la gratuité n'est pas une excuse, parce qu'on a l'exemple par A plus B, que même en étant gratuit, tu peux faire un modèle économique sain avec les gens, quoi.
Ok.
Bon, et on va terminer par le scandale de la semaine, et le scandale de la semaine, c'est eSuite. Je vais te dire une seule chose, ça valait le coup d'attendre, hein. Putain, je rappelle l'historique, ça fait un certain nombre de mois que l'on attend que eSuite soit disponible dans les étals sur PC. Pourquoi ça fait un certain nombre de mois que l'on attend? Parce que, eh bien, ils sont incompétents chez Nice America, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils savent pas faire un portage PC et qu'ils l'ont reporté à de multiples reprises au dernier moment parce que ils y arrivaient pas, quoi. Et ça y est, le jeu est sorti et malheureusement, bah, c'est une catastrophe. Apparemment, il y a plein de crash, il y a plein de manettes qui sont pas reconnues, la résolution interne du jeu est fixe. Enfin, vous savez, le bon petit portage de jeu japonais bien foireux comme on en a malheureusement trop l'habitude sur PC. Et voilà, c'est un pur scandale, quoi. Enfin, moi, je suis désolé. Pendant des années, Xseed s'est occupé de la série Is et a fait plutôt du bon boulot. Bon, ils ont pas toujours été parfaits, Xseed, tu vois, mais ils ont toujours essayé de réparer leurs erreurs. Et par exemple, même sur un Little King Story, ils avaient vraiment chié dans la colle, ben, ils ont réparé la sortie par la suite. Et moi, j'espère en tout cas que Nice America va se bouger un peu le cul là, parce que c'est quand même un putain de scandale, quoi. Reporter le jeu à autant de reprises pour sortir un machin comme ça, c'est juste pas possible, quoi. Et quoi qu'il arrive, même si Nice America a fait une traduction française et même s'il caresse des joueurs français dans le sens du poil en disant oui, la France c'est le second plus gros marché après le Japon pour le JRPG, c'est bien de proposer des trucs pour les Français, etc. Mais encore faut-il que la traduction soit de qualité, ce qui n'est pas le cas, hein. J'en ai discuté avec Ben qui a fini le jeu, la traduction est vraiment pas top. Et encore faut-il que le jeu soit optimisé. Et je précise que même sur PS4, il n'est pas opti. C'est-à-dire que Ben m'a dit, par exemple, qu'il y a des phases dans le jeu sur PS4 où la PS4 rame parce qu'il y a trop de monstres à l'écran, etc. Alors que le jeu, quand même, techniquement, il est pas ouf malade. Bon, après, là, la version PS4, je veux dire, Nice America, ils y sont pour rien. Hein, c'est là, pour le coup, c'est Falcom qui a chié dans la colle. Mais par contre, tous les défauts techniques de la version PC, là, enfin, c'est juste pas acceptable, quoi. À un moment donné, on a des bêtes de course, le jeu, il devrait tourner nickel chrome, quoi.
Bah ouais, mais bon, en même temps, s'il a du mal à tourner sur PS4, alors que le jeu a quand même une allure de jeu PS2, tu vois.
C'est ça.
Enfin, visuellement et techniquement, il y a rien de ouf quoi dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a des jeux avec beaucoup de monde à l'écran. Par exemple, je pense au tout premier Dead Rising qui était sorti sur la Xbox 360, où il y avait des centaines d'ennemis à l'écran. Bah le jeu, il tournait nickel. Là, le jeu est déjà moins beau que Dead Rising qui était sorti donc sur la génération antérieure. Et en plus de ça, le jeu a le luxe en fait d'avoir une traduction foireuse. Et sur PC, le jeu crash, donc ça fait quand même un sacré problème. Moi, c'est un jeu à la base que je voulais acheter, mais je me suis dit, attends, il y a quand même pas mal de petits pépins.
C'est ça.
Et du coup, en fait, j'ai attendu, et quand je vois les retours et que ce que Ben m'en a dit, je me dis, bah putain, j'ai bien fait d'attendre, parce que moi, à la base, je voulais soutenir ce jeu-là, plein tarif, parce que je me dis que les jeux comme ça, en Europe, on en a besoin, tu vois.
Oui.
Et c'est des jeux que j'aime bien, j'ai envie de soutenir, mais là, payer pour ça, franchement, non, quoi.
C'est clair. Et pourtant, je sais que je suis un con, hein. J'achète pratiquement tous les jeux Facom, hein. même ceux que j'ai pas forcément envie d'y jouer. Mais parce que tu sais, c'est une petite boîte japonaise que j'aime beaucoup, etc. J'adore ce qu'ils font. Mais là, non. À un moment donné, Falcom, je suis désolé, choisissez proprement vos partenaires, quoi. Je sais que Nice America vous a vendu du rêve avec la traduction française et tout. Et je trouve ça pas mal, d'ailleurs, hein, qu'ils aient fait une traduction française pour les gens qui parlent pas anglais, etc. Mais à un moment donné, quand tu fais un travail, tu le fais proprement, hein, quoi. Bon, Pixel.
Oui.
On l'a réveillé.
Le mec était parti, tu vois.
Non, j'étais pas parti, j'avais coupé le son de mon micro.
Bon, Pixel, est-ce que tu peux prendre la parole, s'il te plaît? On va parler de la ruée vers l'or des anciennes consoles.
Alors, récemment, en fait, Sega a annoncé lors du FES 2018 l'arrivée déjà de Shenmue, ce qui doit faire plaisir à Tyran, je crois. Mais ils en ont profité aussi pour annoncer l'arrivée, plus tard cette année, pour l'instant c'est qu'au Japon, de la Mega Drive Mini. Donc qui va être tout pareil comme la Super Nintendo Mini, mais c'est avec les jeux Mega Drive. Et pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de plus, ni la date exacte, ni les jeux embarqués, et si on pourra télécharger d'autres jeux dessus, on n'en sait rien.
Ouais, alors par contre, ce qu'on sait, et c'est ça qui, moi, me fait dire qu'il faudra surtout pas acheter ça, c'est que c'est fait par AdGames, le partenaire habituel de Sega pour, vous savez, les Mega Drive qui sortent au Brésil, etc. Ça ressemble très fortement à un rebranding, vous savez, du modèle de Mega Drive qu'ils avaient déjà sorti à un moment donné et qui était une véritable catastrophe, ouais. Il paraît.
Avec Sonic dessus, là, je me souviens de ce
modèle-là.
Ouais,
enfin, le truc qui s'était fait défoncer, quoi, parce que c'était une catastrophe d'un point de vue qualitatif. Et j'espère, en tout cas, pour eux, qu'ils ont fait un contrôle qualité un peu plus avancé, parce que ça envoie pas du rêve. Hein. Enfin, déjà, à la base, si vous voulez, c'est le genre de projet qui m'envoie pas du rêve. Alors, en plus, si c'est de la merde, voilà, quoi. ATH.
Ouais, moi je suis pas d'accord. Parce que quand Nintendo sort des NES Mini et des Super NES Mini, tout le monde est content. Et quand c'est Sega qui fait une Mega Drive,
Ouais, alors ATH, je te rappelle qu'on est sur le podcast de Game Info. Est-ce qu'on avait dit du bien de la NES Mini ici?
Non, enfin nous on s'en fout. Mais après, moi j'ai toujours dit que c'était quand même des beaux objets de collection, tu vois. Pour quelqu'un qui va avoir ça dans sa collection sans avoir la machine d'époque, ça fait toujours joli dans une bibliothèque. Après, c'est vrai que avec les émulateurs et tout ça, enfin, je vois pas trop l'intérêt de ce genre de produit. Mais s'il y a des gens qui veulent, par nostalgie ou bien juste par envie décorative, d'avoir ça dans leur collection, pourquoi pas, tu vois?
Ouais, alors juste, je précise, TH, pourquoi je critique aussi, parce que il y avait déjà eu des retours par le passé sur les produits d'AdGames. Tu dis beaux objets de collection, mais encore faut-il qu'ils soient beaux, qu'ils soient bien finis, tu vois.
C'est ouais, ça bien le truc. Mais ça, bien sûr. Après,
on est d'accord là-dessus, tu vois. Moi, je veux bien qu'il y ait des gens que ça intéresse, etc., d'avoir des objets de collection. Encore faut-il qu'il mérite ce titre-là, si tu vois ce que je veux dire, que ce soit pas juste le petit jouet Mega Drive fabriqué en Chine à 2€.
Après, faudra voir le rapport qualité-prix, combien de jeux propose cette Mega Drive dedans, tu vois. Là, si Sega fait une Mega Drive Mini avec, je sais pas moi, admettons 50 jeux, alors que la NES et la Super NES avaient 30 et 20 jeux respectivement, et qui te font ça à moindre prix avec un contrôle qualité qui soit nickel, bah peut-être que tu vois ça va forcer Nintendo à revoir un peu sa copie et faire quelque chose aussi d'un peu plus qualitatif.
Ça fait beaucoup de si, hein, tout ça.
Bah oui, mais après on est dans l'explication, on sait pas trop ce qu'il y a dans la machine, donc je vais pas te dire la machine fait ça, on sait juste que c'est fait par AdGames et c'est tout, quoi.
Donc bon, moi tout ce que je veux dire, c'est que jusqu'à maintenant, le constructeur de la machine n'a pas une super réputation, donc à moins que Sega ait vraiment mis son nez dedans. Ce que j'ose espérer quand même, hein, parce que s'ils appellent ça Mega Drive Mini, c'est qu'ils espèrent quand même en tirer un petit bénéfice, j'imagine. bon, j'espère en tout cas qu'ils ont jeté un œil sur le process de fabrication. Et Pixel, Sega n'est pas le seul, n'est-ce pas, à vouloir lorgner sur ce segment du marché, puisque apparemment SNK s'y met aussi.
Bah oui, SNK pour son 40e anniversaire, hein, SNK a 40 ans, qui l'eût cru, bah ils vont sortir une console dont la date de sortie n'est toujours pas déterminée, que l'on nommera pour l'instant Neo Geo Mini, parce qu'il n'y a pas de nom officiel. Apparemment, ça sera fabriqué, ou en tout cas ça sera très surveillé par SNK Playmore, pour pas justement reproduire l'erreur qu'avait fait la Neo Geo X, qui avait été fabriquée par Otomo, qui était une société chinoise et qui avait faut le dire aujourd'hui avec le recul, ben bah, ça loupait le travail. Parce que les Neo Geo X, c'était quand même un gros échec, hein, ça s'est complètement planté.
Alors, Pixel, si je puis me permettre, ça sent le vécu, mais
Non, ça sent pas le vécu, parce que j'ai failli l'acheter à l'époque, quand elle était sortie, puis je me suis dit, non, je vais aller voir les reviews d'abord.
T'avais pas pris le train de la hype, c'est ça?
Non, j'ai failli, mais ce jour-là, j'avais oublié mon chapeau et mon écharpe autour du cou, donc je l'ai pas pris. Mais là, ça me hype un peu, ça me hype même beaucoup, parce que bon, ce sera une Neo Geo, qui sera certainement mini, qui acceptera pas les cartouches d'époque, hein, histoire de faire des grosses économies hein, du côté de chez SNK Playmore. Alors, il y a une photo où on voit en fait la forme de la console qui est recouverte à tissu en fait.
Ce teaser, mon dieu.
Et voilà, ce gros teaser. Alors, des gens misent sur une espèce de bar top arcade, ce qui pourrait être le cas, ce qui pourrait ne pas être le cas, en fait, on n'en sait rien. Tout ce qu'on peut voir, c'est qu'il y aura quand même un stick Neo Geo. Alors, est-ce que ce sera le stick Neo Geo de la qualité d'époque de la Neo Geo cartouche?
Ça serait bien, en fait, qu'ils misent vraiment sur un objet de collection, quoi. C'est-à-dire, enfin, de collection. Qu'on n'ait pas un truc un peu cheap, tu vois, vite fait, mal fait. Surtout que c'est une console qui représente l'esprit de l'arcade de cette époque. Et ça serait bien qu'ils sortent un produit à la hauteur de ça, quoi. Parce que,
ouais,
bon, voilà.
C'est comme ça qu'ils méritent. Ça sera certainement plus cher que les 200 euros de la Neo Geo X. Mais si la qualité est derrière, il n'y a pas de problème, ça va se vendre comme des petits pains, et ça sortira certainement cette année pour fêter les 40 ans de SNK. Pas de date, pas de prix, pas de pays annoncé, ça sortira au minimum au Japon forcément, mais est-ce que ça sortira en Europe, enfin en Occident, mystère.
ATH ?
J'aime beaucoup la campagne marketing de SNK, c'est-à-dire que leur slogan c'est quand même « The future is now », et ils essayent de faire ça quand même avec des jeux... très très ancien, tu vois. Enfin, SNK par rapport aux années 90.
Ouais, c'est plus que c'était.
Exactement. Donc, c'est pour ça que je trouve ça, enfin, toujours aussi amusant d'avoir leur slogan. Mais, mis à part ça, c'est vrai que je pense que, comme vous avez dit, il faudrait peut-être qu'ils partent sur une machine un peu de collection, on va dire, haut de gamme. La Neo Geo, c'était quand même une console qui était appelée la Rolls-Royce des consoles parce que ça coûtait une blinde. Les jeux coûtaient aussi extrêmement cher. Ça serait logique quand même qu'ils partent sur un truc qualitatif et que ce soit aussi un bel objet, tu vois.
C'est ça. Beau Pixel, ouais. C'est toujours ton moment. Et là, on part sur la news nanarde de la semaine.
Oui, alors Night Trap, le jeu que vous adorez tous, bien entendu. On adore tous Night Trap, le fameux jeu avec des images full motion vidéo sur Mega CD. va sortir sur Switch cet été. Alors, c'était sorti déjà l'été dernier sur PC et PS4, et ça sortira aussi sur Xbox One à une date encore inconnue. Et je sens que vous allez tous y jouer, parce que vous adorez tous Night Trap, et que vous l'avez déjà tous acheté sur tous les supports disponibles, et que vous l'achèterez sur tous les supports disponibles. Merci beaucoup.
C'est surtout qu'on achète tout ce qui se passe sur Switch aussi, hein,
oui,
bien sûr.
Forcément. Un jeu de qualité.
Bon, Moran, Hype Over 9000, comme d'habitude.
Ah oui, oui, clairement. C'est précommandé, hein, tout ça.
Voilà. Suivant.
Voilà, suivant.
Passons à la suite, s'il vous plaît.
Passons à la suite. Alors, voilà, une news intéressante hein, qu'on aurait pu renommer hashtag balance ton tricheur.
Il faudra arrêter un jour avec les hashtags, quand même.
Ouais, faudrait arrêter. Alors, Billy Mitchell, pour ceux qui le connaissent pas, c'est quand même un soi-disant, mais non, on peut le dire, un ancien soi-disant recordman, enfin détenteur de records de jeux d'arcade des années 80. Et qu'on avait découvert dans le fabuleux documentaire de 2006 qui s'appelle The King of Kong, que je vous recommande vivement de regarder.
Où il joue clairement le rôle du salaud de service. Enfin, c'est très mis en scène. Hein, mais...
Voilà, c'est très mis en scène. Et dans ce documentaire, on voit Billy Mitchell, en fait, soumettre à Twin Galaxies, la société qui s'occupe de gérer, en fait, tous les records officiels sur des vieux jeux d'arcade des années 70 et 80. Mmh. Et même 90. Billy Mitchell a soumis un record, non pas devant témoin, en jouant sur une borne d'arcade, mais sur une VHS, ce qui était pas trop raccord avec les règles de Twin Galaxies, mais comme Billy Mitchell est super copain avec les gérants de Twin Galaxies, eh ben ça a été accepté, et depuis 2006, il était détenteur de ce record sur Donkey Kong. Sauf qu'à l'époque, dans le documentaire, on voyait déjà que ça avait posé des problèmes, parce que les gens doutaient en fait de la véracité du record sur VHS, parce qu'il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas, il y avait des trucs extrêmement bizarres.
Ça fait des années que les gens parlent là-dessus, hein. C'est pas une découverte. Hein.
Voilà. Et ben aujourd'hui, cette année, en 2018, 12 ans après, hein, il a été enfin prouvé que Billy Mitchell en fait a utilisé un émulateur, ce qui est complètement interdit par le Guinness Book des records. parce que Billy Mitchell était dans le Guinness Book des records pour avoir plusieurs records du monde à son actif. Et donc bah, le Guinness Book des records bah, l'a destitué de tous ses records, voilà, et lui interdit de soumettre des nouveaux records au Guinness Book. Donc Billy Mitchell, il est tricard au Guinness Book maintenant, pour certainement à vie. Ça ne fait que conforter en fait l'image qu'il avait déjà dans The King of Kong, qui était déjà pas très glorieuse. Mais et voilà, bah Billy Mitchell, bah à part son record qu'il a sur Pac-Man en fait, le perfect score qui fait bugger la machine de Pac-Man, il a plus rien.
Par contre, je précise qu'il conteste bien évidemment ces allégations, forcément, n'est-ce pas ?
Forcément.
D'après lui, il aurait des preuves et des témoins. Depuis le nombre d'années qu'on le critique, quand même, c'est bizarre qu'il sorte que maintenant. On verra bien. On verra bien. Adèche. Voilà.
D'ailleurs, je vous invite à regarder une vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Lopok. Ça s'écrit L-A-U-P-O-K, où il parlait justement des d'autres personnes qui ont été prises en flagrant délit de tricher sur d'autres jeux. D'autres trucs où, en regardant la vidéo, bah, d'autres YouTubers se sont rendus compte qu'à un moment, tu vois, il y avait une coupure qui était vraiment pas très perceptible si tu fais pas attention, si tu analyses pas la chose image par image. Et du coup, tu vois, il y a des gens qui ont quand même trouvé la supercherie et qui remettent en question justement ces speedruns. Et du coup, bah, c'est la deuxième personne qui était en dessous de lui qui a le record du monde, quoi. Parce que ça a été considéré comme une triche, quoi.
Ouais. Et pour finir donc là-dessus, bon, de toute façon, c'est typique des records de cette époque-là. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux, les gens scrutent beaucoup plus les records sur les speedruns, etc. Tu sais, ils regardent à la frame et tout pour voir si ce que le gars a fait est possible vraiment, ou s'il a pas utilisé des outils, ou s'il a pas fait un montage très bien ficelé. Notamment, tu sais, il y a les gens qui regardent les chargements, etc. Enfin bref, aujourd'hui, c'est énormément scruté, et il y a beaucoup de records, pas que pour Billy Mitchell, hein, qui sont remis en cause parce que les gens disent attends, vous êtes gentils là les mecs, là il y a pas de vidéo, là ta vidéo il y a un truc qui cloche, et justement il y a un petit conflit de génération là-dessus aussi, parce que entre, tu sais, les vieux briscards qui bah c'était la petite communauté, tu vois, on était entre soi et tout machin, et d'un seul coup t'as les jeunes qui arrivent et qui disent non mais ton truc là ça va pas, il y a quelque chose de très suspect. Enfin bref,
oui, je voulais rajouter une dernière chose.
Oui.
Il y a un deuxième documentaire que je voulais conseiller qui s'appelle Chasing Ghosts Beyond the Arcade, qui date de 2006 et qui se concentre en fait sur l'histoire de Twin Galaxies et qui est très intéressant et dans lequel on voit aussi Billy Mitchell, hein, encore une fois.
D'accord. Allez, Maren.
Oui.
On va attaquer le dernier sujet de la semaine. Bon, je crois que t'as tenté un chèque, mais t'as été très déçu parce que apparemment, visiblement, il y a des gens qui sont payés pour faire de la merde sur Twitch. Donc, on se disait que comme tu n'es pas très connu pour être un super player, tu vois, il y aurait peut-être moyen que tu papes quelque chose quand même. Mais apparemment, visiblement, ça s'est pas fait, quoi.
C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, pour vous expliquer un petit peu le contexte de cette boutade, c'est Michael Shea, donc qui est un des développeurs d'Everspace, ce jeu de tir spatial roguelike, qui est plutôt cool au demeurant d'ailleurs, qui a expliqué un petit peu comment ça s'était passé dans les coulisses, la promotion du jeu, qui était du coup géré en externe pour le côté marketing social et influence du coup, donc plutôt à destination des youtubeurs et des streamers. Ils ont demandé de l'aide à une agence, puisqu'il y a des agences maintenant de marketing social qui existent, de leur trouver en fait 20 streamers, youtubeurs, influenceurs, pour bah, promouvoir Everspace au moment de sa sortie. Et en fait, il annonce avoir été extrêmement déçu par le plan qui lui a été proposé. Il critique notamment le fait que la plupart des gens qui avaient été choisis par l'agence, et donc validés par eux ensuite, bah, ils ont très très mal joué au jeu. Il y en a que 3 ou 5 qui ont été plutôt corrects, et ils donne d'ailleurs des chiffres, bon pas de nom hein, bien sûr sur le streamer en question, mais il dit qu'il y a un des streamers qui a été payé 5 000 € de l'heure, et en plus il imposait au développeur de le sponsoriser pendant 2 heures, donc ça fait 10 000 de cash pour 2 heures de travail, c'est pas mal. Et en fait, lui, donc, Michael Shade, il remet pas en question cet échange d'influence, pas du tout, par contre il remet en question le travail de l'agence, qui lui a proposé donc des gens qui n'était pas spécialement...
Non, bah, on peut le dire qu'il n'y en avait rien à foutre du jeu, quoi.
Enfin, exactement.
Non, voilà, on peut dire qu'il y a des gens intéressés par l'appât du gain, mais pas par le jeu forcément, quoi.
Voilà.
Voilà. A priori, il n'était pas intéressé par le jeu, il jouait pas spécialement à des jeux dans l'espace, et il l'a même dit en stream, en fait, bon, j'arrête de jouer à Destiny, a priori, je crois que c'était Destiny 2 auquel il jouait, et puis il dit parce que je dois faire un stream sponsorisé pour jouer à un space game, mais je déteste les space games, en fait. Ok.
Bah, au moins, il est honnête.
Au moins, il est honnête. Enfin, il est honnête avec son public, mais il n'est pas honnête avec lui-même, en fait.
Oui, bien sûr.
Mais bon, bref. Du coup, il remet en question, en fait, le travail de ces agences-là pour leur dire, en gros, faites attention quand vous proposez des gens qui, certes, ont de l'influence, parce que si tu payes 5000 balles de l'heure, c'est qu'a priori, il a une influence et une communauté importante. Par contre, faire attention que ça correspond un petit peu à mon jeu, quoi. Parce que si, effectivement, le mec, il joue jamais à des space games, il déteste ça, ça sert à rien que je le paye pour qu'il markete entre guillemets mon jeu, parce que ça va faire un marketing négatif du coup, parce que si le gars il sait pas jouer au space game, ça l'intéresse pas, et ben il va pas faire une démonstration intéressante de ton jeu. Mmh. Donc c'est ça dont il parle. Après on peut peut-être éventuellement parler de toute cette vague de joueurs qui jouent mal à des jeux mais exprès pour faire rire les gens, et ça aussi ça peut marcher. Alors en l'occurrence, lui il était plus dans une optique, joue bien à mon jeu, comme ça les gens vont voir ce qu'il a dans le ventre, et ça, a priori, il l'a eu que sur 3 ou 5 des 20 influenceurs qu'il a payé, quoi. Donc il était assez déçu, le petit Michael Shade.
Alors, je comprends bien la critique du monsieur, il a tout à fait raison, l'agence n'a pas fait son travail, très clairement. Maintenant, j'aurais envie de lui poser une question, est-ce que à un moment donné, quand t'es un jeu indépendant et que tu sais que de toute façon sur Twitch, les gens jouent à ceux qui marchent, enfin, je suis désolé, hein. Regardez les listes de ce à quoi les gens jouent sur Twitch. En ce moment, ça sera God of War, par exemple. Hier soir, j'ai regardé sur ma liste Twitch. God of War, God of War, God of War, God of War, God of War. Ah, tiens, non, Subnautica. Ah, God of War,
ouais,
God of War, God of War.
Tu sais très bien que God of War, ça va pas rester très longtemps, parce que déjà, c'est un jeu solo, scénarisé. Une fois que le tir de sortie va être fini, on va retrouver les mêmes, que ce soit Fortnite.
Oui, tu as raison, mais on repartira sur les classiques, tu vois, ça sera pas les jeux indés, ça sera pas les machins. Alors, que les gens se disent oui, je vais payer un streamer pour qui joue à mon jeu dans son contexte là, sachant que les streamers ça les intéresse pas en fait, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que les youtubeurs qui font ce genre de jeu, on les connaît en fait, tu vois. C'est des Mister MV, tu vois, les gars comme ça, les Atomium, les gens qui jouent à des jeux parce que ils veulent promouvoir le jeu indépendant, parce que ça les intéresse. Mais ces gens-là, je veux dire, c'est des gens qui jouent à un jeu parce qu'il est cool. Et est-ce que ce serait pas mieux d'investir tout cet argent pour fignoler le jeu? Bon, en l'occurrence, Everspace était plutôt bien fini, donc voilà. Mais je me dis que est-ce que c'est pas un peu de l'argent gaspillé, tu vois, que d'investir de l'argent là-dedans, quoi. Surtout que si c'est pour tomber sur dans 90% des cas sur un YouTuber qui fait ça parce que ça lui rapporte tant et qui en a rien à foutre, en fait.
Alors, déjà, par rapport à la somme qui a été proposée à l'heure, donc 5 000 $, je trouve ça quand même complètement fou par rapport à ce que ça représente vis-à-vis du travail de la personne. Le fait que quelqu'un soit payé pour jouer à un jeu, ça me dérange pas. Par contre, la personne dont on parle n'aime pas du tout les jeux spatiaux et dit très bien, clairement, ouais, là, je dois arrêter mon live sur Destiny 2 parce que j'ai un live sponsorisé à faire. Entre guillemets, ça me fait chier, c'est comme si je dois aller à l'usine, quoi. Moi, ce que je pense, la solution la plus correcte, on va dire, et surtout la moins chère, je proposerais de donner des clés à des streamers qui aiment ce genre de jeu-là, pour justement qu'ils en parlent. Mmh. Après, c'est libre à eux, et puis ça reviendrait moins cher, parce que s'il y a des gens qui trouvent que mon jeu est cool, bah, ils vont en parler d'eux-mêmes, naturellement, ils vont dire, ah putain, j'ai joué à un jeu, c'était une tuerie, je vous fais une vidéo dessus, hop, un live, et moi je pense que ça serait beaucoup plus rentable que de payer des personnes 5 000 $ de l'heure. Après, bon, je pense que lui,
c'est
ça
une
devrait
exception,
être un cas.
Faut pas donner l'illusion, tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent, etc. Par exemple, que, ça y est, streamer, c'est la rue vers l'or, tu vois.
Non, lui, c'est
5 000 $ de l'heure, c'est bon.
Voilà, c'est un peu le plus du pie du Twitch, tu vois. Je pense que c'est vraiment le top 10 qui arrive à avoir ce niveau de salaire-là, quoi. Après, les autres, ils sont beaucoup moins rémunérés et tout ça. Mais bon, déjà, ça coûterait moins cher. Et en plus de ça, ça parlerait à un public qui aime ce type de jeu, ce type de contenu-là. Et il y a quelque chose de très intéressant que j'aimerais bien revenir là-dessus, c'est le fait que c'était quand même un jeu qui a été financé sur Kickstarter. Est-ce que moi, en tant que backer Kickstarter, j'ai envie que mon argent parte à un YouTuber ou un streamer comme ça, alors que cet argent-là sert à développer un jeu, j'ai confiance en vous, À moins que ça soit mis dans les stretch goals, tu vois, genre stretch goals ultimes, on finance...
Non, ou alors tu fais un camembert, tu vois, et sur le camembert, il y a la partie communication. Voilà, donc à la limite, pourquoi pas, tu vois, mais il faut que ce soit très clair sur le Kickstarter.
Ouais, bien sûr, c'est ça, mais déjà, quand c'est un jeu, tu vois, qui demande de l'argent à des gens pour être financé, que eux ils le redistribuent de cette manière-là, je pense qu'il y a quand même des choses plus intelligentes à faire. C'est pas un grand studio qui est derrière ce jeu-là, tu vois, c'est un studio qui est fait, je sais pas combien de personnes ils sont exactement, mais c'est pas des Rockstar, c'est pas des Activision, etc.
C'est pas une centaine de personnes, non, c'est une dizaine de personnes, quoi, au max. Donc,
ouais,
voilà.
Mais si le jeu ne fonctionne pas, est-ce qu'ils vont pas crever la gueule ouverte du jour au lendemain? Donc, c'est peut-être mieux de garder cet argent-là pour investir dans un autre projet, enfin, faire autre chose. Et je pense que ça aurait quelque chose qu'ils auraient dû mettre en avant quand même aux backers. Genre, vous backez notre jeu, mais cet argent-là va être distribué dans telle partie. Au moins que les gens savent ce qui est fait de leur argent, tu vois.
Morane?
Ouais, je suis d'accord avec vous sur le côté communication post-Kickstarter. Après, je reviens sur le gars et ses 5 000 euros, du coup. En fait, faut bien voir que l'agence a fait son truc un peu bête et méchant en mode, bon, alors, qui a une énorme communauté? Ils ont payé la visibilité qu'un mec comme ça peut avoir, donc qui se compte probablement en dizaines de milliers de fans, mais là où ils ont été cons, c'est que, sauf exception à la Mr. MV, à la Zerator, etc., les communautés qui se forment autour de streamers sont des communautés qui viennent voir un contenu spécifique de la part du streamer ou du youtubeur. Typiquement, un mec qui stream uniquement du Fortnite, ou du PUBG, ou du World of Warcraft, ou du machin, ils viennent voir ça. Le souci, en fait, c'est qu'une agence de communication qui vient démarcher un mec qui a une énorme communauté, mais ce mec, il ne joue qu'à du Fortnite ou à du Destiny 2, pour le cas de ce gars-là, et ben en fait, quand il va faire son stream sponsorisé sur tel jeu, quand il va accepter son chèque et streamer ce jeu sous la contrainte, entre guillemets, et ben dans les faits, en fait, le stream, il va pas être vu autant que si ça avait été un jeu auquel il joue d'habitude. Et c'est là où t'arrives à la limite, finalement, du marketing social, c'est que si c'est pas organique, entre guillemets, l'arrivée de ce jeu dans la timeline d'un streamer ou d'un youtubeur, tu vas avoir une dépressurisation énorme, en fait, du nombre de fans qui vont regarder et qui vont être à l'écoute face à ça. Tu vois, typiquement, tu sponsoriserais un jeu sur le stream indépendant de Mr. MV ou de Zerator. Là, t'aurais les gens qui viendraient parce que les gens, de base, ils viennent voir Mr. MV ou Zerator, jouer à un jeu, s'amuser, et là, ils se disent « Ah ouais, il est cool, ce jeu ». Par contre, un mec qui joue uniquement à un type de jeu, un jeu de survie, par exemple, qui va se mettre à streamer Everspace comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et bah, la communauté, il va se dire « Mais ouais, mais pourquoi il joue à ça ? Moi, je m'en fous, en fait. » Et tu vas voir très vite dans le chat, parce que sur Twitch, les chats, en général, sont assez salés, tu vas très vite avoir des gens qui disent « Ouais, enfin, quand est-ce que tu rejoues à Ark, à Subnautica, à je ne sais pas quoi ?» Et en fait, le gars, il va juste être obligé de dire « Bah ouais, mais c'est sponsorisé, on m'a payé pour une heure, tu vois. » Donc, ces agences qui se disent un peu expertes de ce milieu-là, mais qui n'embauchent pas, finalement, des gens qui sont logiques pour jouer à ces jeux-là, c'est des métiers qui se sont créés sur très 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 vite et sur le tas. Et pour l'instant, tu sens encore que c'est limité, dans le sens où, bah, ils regardent uniquement les chiffres. Et là, c'est ce que Michael Shade dit, finalement. C'est qu'il faut se rendre compte que c'est pas suffisant, les chiffres. Parce que tu peux avoir une communauté qui est très resserrée, mais qui finalement est très très fan d'un type de jeu, et c'est plutôt cette communauté-là qu'il faut cibler.
Ok. Bon, on va s'arrêter là-dessus pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut tout le monde.
Salut.
Salut.